direct un petit atelier tisane.
Le retirage de tisane. Ça.
C'est magnifique ça.
Évidemment.
Hop là.
Tout ce qu'on fait était magnifique.
Ah, c'est au fruit rouge, ça sent trop bon, mec. Est-ce que vous buvez de la tisane? Dites-le nous en commentaire pour référencer mieux le podcast.
Je sais même pas que ça existait.
Ah, elle est bonne.
Ouais, non, elle claque.
Carré. Bon, mec, on vient déjà de faire l'intro, là, en fait.
Bah, quelle intro, là?
Intro podcast.
Tu fais pas l'intro du départ, là.
Si, tu veux que je te la fasse? Bon, la vraie intro, là, en direct.
Je fais comme tu veux, je l'entends à chaque fois, je me dis, putain, mais il parle pendant 3 heures.
Eh ben, c'est pas grave.
Je veux le sujet.
Vas-y, je vais reparler pendant 3 heures.
Vas-y.
Yo, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Et aujourd'hui, les amis... Nouvel épisode du Grind Talk, format que vous avez beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, je vous remercie toutes et tous pour vos retours concernant l'annonce et le premier épisode du format. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour ce deuxième épisode. Je suis avec le bro que vous avez déjà vu qui... Mec, ça fait combien de fois que t'es venu sur le podcast? Je crois que ça doit bien faire 4 fois, là.
Non, t'as vu...
Ça doit être la 4e fois, là. Si, t'es venu au moins 3 fois.
Je suis venu 2 fois. Venu 2 fois, ça doit être ma 3e.
Ouais, mais 3 épisodes. On avait fait l'entrepreneuriat... Partie 1, partie 2.
On avait fait investissement.
Investissement.
On avait fait deux parties pour l'investissement ou pas?
Ben ouais, je crois que c'est pour ça.
Ah, possible alors.
Et du coup, la troisième épisode, c'était sur la...
Sur la réhab.
La réhab, ouais.
Sur la réhab et en règle générale, quoi.
Ouais, de ouf. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler potentiellement un petit peu aujourd'hui. Ça va être intéressant. Vous nous avez posé des questions. Merci beaucoup. On n'en a pas eu des masses. On va pas mytho.
Utilise-le-vous, il y a un pélo.
Non, en vrai,
si on est 100% honnête,
ce que j'ai fait, c'est que bon, déjà un peu my bad, j'ai fait la boîte à questions un peu au dernier moment. Et donc, du coup, ce que j'ai fait pour compenser, c'est que j'ai pris quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais genre par le passé en DM ou des choses comme ça, que je vais pouvoir un petit peu approfondir dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, au final, ça nous fait plusieurs questions. Et j'ai aussi des sujets que j'ai un peu préparés de mon côté pour le bro et pour nous en général. Qui vont, je pense, mener à quelques débats. Enfin, ça va être très intéressant. Et je te propose qu'on se lance directement, là.
Ouais, bon, on va prendre la première question qu'on a, tu vois, peut-être pour le départ. Ça, on va pouvoir... Ça se trouve, ça va nous amener sur d'autres sujets. Ça,
ouais,
moins...
de ouf. Je vais la rechecker quand même. C'est le mec qui a plus de cerveau.
Qu'est-ce que vous apporte la force au quotidien?
C'est ça, ouais. Enfin, j'en ai eu une avant, mais ça, c'était la mienne.
Peut-être qu'il y en a eu d'autres, hein, depuis. Hein. Peut-être qu'il y en a eu une deuxième qui s'est greffée.
Ouais, on va dire j'en ai deux des auditeurs, j'en ai une de moi, et puis après, je pense que vu qu'on va bifurquer et tout, ça va nous laisser, ouais. Je pense que ça va nous mener après sur d'autres trucs et tout, donc on va dériver. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, les amis. Avant de commencer, on s'abonne au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, très important, et petit 5 étoiles si le podcast vous plaît sur Spotify et Apple Podcast. Donc la première question qu'on avait, c'était de Corentin. Donc Corentin qui était une amie à nous, petite dédicace à toi d'ailleurs, Coco.
Coco.
Qui nous dit, qu'est-ce que la force, qu'est-ce que les sports de force, lui il fait du street lifting et moi je fais du powerlifting, qu'est-ce que la force nous apporte au quotidien? Et en vrai, la question elle peut mener à beaucoup de choses, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Comme tu veux.
Pour comme donner... tu veux, tu préfères que je commence?
Ouais, vas-y, en vrai, si tu veux, si t'es chaud.
Allez, je suis chaud, carrément.
Ah bah, let's go.
Alors, la force, moi, la force en tant que telle, ça m'apporte surtout l'entourage. C'est-à-dire que dans d'autres sports, c'est un sport de mec déterminé. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui font du sport en club, mais ça va pas être des gens. Tu vas pas retrouver cet esprit un peu de gens déter dans le sport. Tu vois, ça va plus être des là, ouais, enfin, là, en gros, quand on se discute avec les personnes, elles vont être là. Bah moi je fais du sport, je fais ça, machin, etc. Mais elles n'organisent pas tout leur rythme de vie autour de ça. C'est rare, en tout cas, les sports comme ça. Alors qu'un sport de force, c'est un sport de passionné. Tu fais pas ce sport si t'es pas passionné, pour moi c'est clair. Donc il y a surtout ça, l'entourage. Après je vois pas d'autres points, parce qu'en réalité moi c'est ce que le sport m'apporte. C'est pas les sports de force en règle générale, c'est le sport en général, tu vois.
Ouais.
Mais dans les sports de force, par contre... C'est clair que c'est un sport de passionné, donc c'est plus intéressant les interactions que tu as avec les personnes, l'entourage que tu crées autour, et voilà.
Ouais, bah moi on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis là, c'est que les sports de force, bah voilà, t'as plein de paramètres qui gravitent autour du sport indirectement en fait, tu dois faire attention à ta récupération, donc ça implique de bien manger, d'avoir une diète.
regarde comme si.
Petit clin d'œil. Non, non, en vrai. Il y a une diète sans avoir une diète.
C'est ça.
C'est juste tu comptes pas tes cales et tout, et des fois tu fais des petites dingueries, genre un petit fromage blanc avec des gaufres au miel à 2000 cales.
Oh putain.
C'est le podcast des dingueries, vas-y, ouais,
on
s'en fout.
Faudrait que je la refasse un jour cette recette.
Ouais,
il vous la donnera. Pas une recette.
Attends, hey, mec, tu sais ce qu'on va faire, gros? On va faire une dinguerie. Là, on est à peu près à 90 évaluations sur Spotify. Quand il y aura les 100 évaluations, donc les 105 étoiles, déjà, franchement, c'est pas mal, hein. Niveau stats et tout, on refait un épisode du Grind Talk, je te réinvite sur le podcast et tu donnes la recette. Tu donnes la recette, tu donnes le banger.
Allez, let's go, putain, ce con, la ref, il vient d'en lâcher de ses dents. Ouais, bon, c'est comment là, on l'a vu cette putain de recette.
Que ça devienne une ref. Donc, les gars, lâchez un 5 étoiles sur Spotify pour qu'on ait la recette de Jojo. Mais non, plus sérieusement, donc ce que j'expliquais, c'est que oui, il faut faire attention du coup à son alimentation. À son sommeil pour avoir une récupération qui est clairement optimale. Il faut aussi avoir un bon programme d'entraînement, une planification, il ne faut pas faire ça à la zeub. Et donc en fait, ça prend en compte tout ton quotidien, littéralement. Et il n'y a pas beaucoup de sports, enfin, il y a même très très peu de sports en réalité, qui prennent autant en compte ces paramètres-là sans forcément être dans le haut niveau. Parce que c'est vrai que tous les sports à haut niveau, il faut faire attention à ces paramètres.
Ouais,
mais quand tu es en loisir, je pense que les sports de force. Et la musculation, après il y en a peut-être d'autres qui ne me viennent pas en tête maintenant, mais prennent vraiment en compte beaucoup, beaucoup de paramètres de ton quotidien.
Et ils prennent une grosse place dans ta life en général, hein, en vrai de vrai. Hein.
Ouais,
même là, les gens ils réfléchissent par rapport à ça, tu vois.
Ça prend du temps.
C'est pas l'inverse, ouais.
Un entraînement de force, on va pas se mytho. En dessous des 2 heures, c'est assez rare. Souvent les séances gravitent autour des 2 heures, voire 3 heures quand tu fais. Moi, je prends mon exemple des séances où tu fais SBD, par exemple, ou même vous, un squat dip,
ouais,
c'est long. Un
hein.
Squat dip, c'est super long. Hein. Mm. Parce que l'échauffement en squat, le temps de mettre les genouillères, de faire la mobilité, le machin et tout, c'est hyper long.
Mm. Puis après, tu te
réchauffes. Peu que t'aies du volume et tu te
réchauffes pour le mouvement d'après, etc. Enfin, c'est interminable.
Ouais, de ouf. Et ouais, donc, pour moi, personnellement, ce que ça m'apporte, déjà, en premier temps, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Pour moi, les sports de force, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, te force, entre guillemets, à genre aussi t'accrocher un peu au plan. Surtout si t'as un coach, moi je prends l'exemple de moi qui est un coach, ou même quand t'es en auto-coaching en réalité, mais c'est plus marquant, je trouve, quand t'as un coach. C'est vraiment ce truc de, t'as un plan et t'es pas là en train de faire, en fait, genre des max tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des blocs qui vont être un peu chiants. Il y a des blocs où franchement tu vas pas prendre du grand plaisir, genre tu fais un bloc volume, tu vas pas être comme un fou, tu vois. Genre c'est pas très amusant en réalité, et pourtant tu sais que c'est essentiel au processus pour te construire, et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et pour moi les sports de force, ça m'apporte vraiment cette discipline là. Après voilà, l'entraînement, toi comme moi, c'est un kiff, c'est-à-dire que moi je me force pas à m'entraîner, j'adore ça. C'est le meilleur moment de ma journée, en plus,
ouais, c'est ça.
Vas-y, à la salle, tu croises les poteaux, tu connais tout le monde, c'est un peu le moment où tu
sociabilises pour nous.
Exactement, ouais, c'est ça.
Si on voit personne,
on est dans le noir toute la journée et on mange des flocons d'avoine et c'est tout. C'est vrai qu'en plus, c'est un moment, comme disait Joris, où tu sociabilises, tu fais des rencontres, etc. C'est ça qui est beau dans le sport aussi. Et ouais, moi je dirais que ça m'apporte vraiment de la rigueur, de la discipline, des rencontres aussi dans le sport. Et moi, j'entends que c'est un cas qui est plutôt rare, mais des opportunités professionnelles aussi. Parce qu'avec la photo et la vidéo, je suis quand même pas mal niché dans le milieu du sport. Et ça me fait aller sur des compétitions, mais pas forcément pour y participer, mais pour travailler aussi là-bas. Et donc indirectement, ça m'ouvre aussi à des portes sur le plan professionnel. Donc moi, c'est ce que ça m'apporte personnellement. Je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter qui te viennent en tête, ou des choses comme ça.
Non, comme j'ai dit, moi, franchement, l'entourage est... Voilà, c'est à peu près tout. Globalement, c'est n'importe quel sport va pouvoir m'apporter à peu près la même chose que ce que je vais retrouver là.
Ouais. Et franchement, on en aurait fait des belles rencontres et c'est pas fini d'ailleurs.
Ouais, non,
je dis ça au passé, mais clairement, ça va continuer. Mais
ça fait kiffer.
Hein. On a rencontré pas mal de personnes, hein. Même truc tout bête, mais on est allé ensemble donc à la FNSL l'année dernière.
Ouais.
Enfin, moi j'y suis allé plusieurs fois dans le cadre du boulot, mais j'aurais y allé parce qu'il a fait spotter. Spotter d'ailleurs, était-ce une bonne expérience?
Spotter, je mets ça sur mon curculium vitae.
C'est
le CV, c'est le CV.
Ok.
Juste pas là, vas-y.
Okay.
Je crois que j'ai bégayé un peu sur le nom, je l'ai un peu écorché. Mais tu peux mettre spotter professionnel. Quand tu fais ça 48 heures, putain.
Ouais, t'as fait deux jours, t'as fait tout le week-end en plus.
Ouais, c'est ça, franchement.
C'est physique, hein, on dirait c'est... pas, mais forcément, spotter. Hein, parce que,
avoir fait les deux, j'ai fait compétition et spotter. Spotter, c'est plus épuisant que de faire la compétition. La compétition, t'es mort, mais spotter, t'es encore plus mort. Nerveusement, t'es peut-être pas mort, mais musculairement, tu sens que t'es mort de chez mort. Et enfin, faut être même focus mentalement, tu vois. Parce que quand on demande de charger les barres, t'as une minute de délai.
C'est court.
De passage entre les deux athlètes, faut être au tac, tu vois. Ouais. Et surtout quand t'as pas l'habitude de calculer les charges, quand tu t'entraînes pas sur du calibré. Moi, je m'étais j'avais jamais touché du calibré de ma vie.
Parce que maintenant, on a du calibré dans notre fitness park, mais c'est vrai que là, c'est récent et avant, on n'en avait pas. Et les poids de 25, au début, ça te fait bug. Parce que 100, pour la plupart des gens, c'est deux plaques de 20. Sauf que bah, quand t'as du calibré, en fait, c'est un 25 et un 15, tu vois.
Ou au squat,
Et encore, ça, c'est la phase gentille, parce qu'en compétition, t'as les stop disques qui font 2,5. Et t'es obligé de mettre ces stop disques-là. Donc, c'est-à-dire qu'une barre à 100, tu mets même pas un rouge et un jaune. Tu mets genre un rouge, un vert, un 2,5 et le stop disque. Donc, c'est hyper relou à calculer quand t'as pas l'habitude. Et autre paramètre aussi, si vous n'avez jamais touché un disque calibré, je vous invite à le porter. C'est 4 fois plus lourd qu'une plaque normale, moi je trouve. C'est pas, en fait, déjà, c'est pas pratique à porter.
Ouais, c'est que genre, c'est pas pratique.
Et vu que c'est compact, genre, je sais pas, je trouve que ça fait plus lourd. Et je pense à la fin de la journée, genre, en mode, t'en as bien dans les avant-bras.
Bah, t'en as chié. Moi, à la fin, ça m'avait réveillé mes tendinopathies au niveau des coudes, mec. Je suis ressorti, j'étais en PLS au niveau des coudes.
Ouais.
Bah, c'est simple, j'ai dû mettre au moins une semaine et estomper les douleurs.
Juste parce qu'il a fait spotter.
Ouais, juste parce que
j'ai. Mais faites spotter, on a besoin des spotters en compétition.
Ouais,
c'est le truc qui vend trop bien. Donc,
bah, en vrai. On rigole, mais il y en a pas assez. Hein.
Ouais, ouais, c'est clair. Donc, si vous êtes dans des régions, vous avez des compétitions, etc., et qu'il y a besoin de spotters, franchement, prenez. Alors là, on parle d'un week-end, mais parce que c'est les championnats de France, mais souvent, c'est genre une journée ou même une après-midi. N'hésitez pas, vous allez faire des rencontres, c'est bonne ambiance en général, etc. Et ouais, vraiment, n'hésitez pas. Même là, on a bientôt la FNSL Grand Ouest. Et je pense qu'on va encore, comme l'édition là qu'il y avait eu en mai, avoir besoin de spotter, donc n'hésitez pas à venir. Et en plus, vous pourrez nous rencontrer, quelle aubaine. Mais on a besoin, on a besoin de spotter pour les compétitions. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez dans la force athlétique. C'est aussi des bénévoles, mais vu que c'est plus hype, en général ils n'ont pas trop du mal à trouver, mais dans le street c'est encore assez émergent.
En général, même les spotters, moi j'avais observé ça, bon, c'est un autre sujet d'ailleurs.
Des spotters professionnels.
Des spotters, alors ouais, faudrait professionnels.
Il y en a dans la FA, je crois. Hein. Ils sont rémunérés, il semble, non ?
C'est possible qu'il y en ait, mais il y en a, c'est des. Faut dire ce qu'il y a, c'est des merguez, tu vois. Genre les mecs, j'avais vu, c'était je sais plus
au Worlds
du monde.
C'est Worlds, ouais,
mais
c'était
cette
mecs
année,
de...
hein. Mais c'était cette année, hein.
Ouais, et au Worlds, genre t'avais des giga squats à genre 300-400 kilos, ouais. Et t'avais t'avais beaucoup de mecs, hein. T'en avais peut-être 6, ouais. Mais dans les 6, il y en avait bien déjà 2-3. Ils étaient comme ça, tu vois.
Ouais, alors oui, il y a déjà ça, il y a le gabarit.
Moi, personnellement, alors no shame sur ces mecs-là, mais t'es au championnat du monde, tu mets pas des gagolés comme ça pour spotter des barres de squat, tu vois.
Bah, c'est compliqué, ouais. Enfin, ça met pas en confiance. Mais au-delà de ça, même un mec qui est que c'est qui sait spotter, en vrai, ça devrait bien se passer.
Niveau technique, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais ça s'apprend, hein. C'est pas genre en mode vas-y, n'importe quel pélo de la salle peut spotter et ça se passe pas comme ça. Et le truc, c'est que j'avais vu ça justement, je te l'avais envoyé, je sais pas si tu t'en rappelles, mais le mec, il y avait une barre, enfin, je sais pas, sûrement à plus de 200 kilos déjà.
Il était genre comme ça au-dessus du squat, non ?
Et le mec, il. Bah comme s'il voulait la curl, c'est genre comme ça, mais avec les mains hyper 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 larges, le pire truc, tu vois. Alors dans l'idéal faut être là, et le mec il était comme ça, comme s'il allait récupérer une aubaine, tu sais, genre, hein. Et le mec comme s'il allait curl la barre une fois que le pélo il tombe, tu vois. Mais et je me dis putain, mais le mec il est au monde, quoi. Donc je sais pas, un minimum, quoi.
Bah c'est qu'ils prennent ils prennent, parce que souvent c'est à chaque fois c'est dans des pays différents.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'ils prennent des mecs qui font même pas de la FA, tu vois. Ils prennent des mecs genre juste qui font de volontaires FA, sur la journée, ouais. Et tout, mais
qui font de la FA, mais juste qui sont pas rodés, quoi.
Ouais, c'est ça. Spotter, ça s'apprend. Franchement, aujourd'hui, anecdote. Vas-y, c'est le podcast des anecdotes, de toute façon, ici. Le grind talk, c'est ça aussi. C'est des petites anecdotes pour vous régaler. Et j'étais à l'entraînement. Alors, j'aurais c'est pas entraîné, il m'a rejoint tout à l'heure, mais j'étais avec un ami à moi, Yann. Et en gros, il a fait son bench. Et c'était à 102,5. Bon, ça va, 102,5, franchement. J'ai déjà réussi à spotter, enfin, à genre relever 100.
Tu m'as déjà relevé
120.
110, je crois. Là.
Ouais, 120. J'avais déjà fait un mec 120.
Ouais.
Et c'était chaud, j'étais pas serein. Et bref, il a fait le 100 bench tout à l'heure. Et truc tout bête, enfin, genre, j'étais pas trop dans le truc. Je m'attendais pas à ce qu'il faille savoir. C'était sur sa dernière série. Et j'étais trop loin. J'étais trop loin.
Ouais.
Et du coup, je l'ai un peu attrapé comme ça en avant. Mais si t'as pas la bonne posture, tu peux pas la remonter. Hein. Mais vraiment. Et c'est pour ça, il y en a plein, ils savent pas comment spotter, mais en fait, il faut vraiment avoir la bonne position. C'est pas qu'une question d'être fort ou de pas être fort, en fait. C'est qu'il faut avoir aussi un peu la technique et mine de rien la confiance aussi, parce que si tu paniques, ça va pas donner un bon résultat. Mais ouais, il y a vraiment une technique. Bah, déjà, petit tips, podcast des anecdotes, on continue. Mais pour le bench, en tout cas, déjà, faut se mettre genre en prise un peu mixte. C'est genre comme au deadlift. Genre, tu mets une main en dessous. Une main au-dessus et tu te mets vraiment au-dessus. Enfin, tu t'en fous d'être au-dessus de la tête du mec, de toute façon il a fait le savoir. Et vraiment, comme si tu voulais la rowing à moitié, mais si t'es trop loin ou que t'as les bras tendus ou un truc comme ça, t'arriveras jamais à la relever quoi. Et pour le squat, bah, t'as expliqué du coup, mais il y a plusieurs méthodes. Mais si c'est un mec avec un mec, genre en mode t'arrives et tu le prends carrément comme ça.
En gros, tu mets tes bras en dessous ses aisselles. Et tu viens le prendre au niveau des pecs, quoi.
Ouais.
Mais bah après, tu fais pas ça avec une femme, parce que je pense qu'elle va pas kiffer, mais...
Évidemment.
Évidemment.
Ouais. Sinon, mec, tu prends la barre directement par en dessous, mais genre la barre.
Quoi. Ouais, mais après, enfin voilà, tu vas voir tous les haters. En général, les femmes, elles mettent moins que les hommes, forcément. Vas-y, forcément, voilà, t'as pas besoin de...
Dans le street, c'est pas des gros squats, en général, ouais, chez les femmes.
Ouais, t'es à 150 déjà, t'es...
Dans le power, tu prends 5 mecs et tu les mets tous autour de la barre.
Encore,
parce que quand t'as une IA qui te tape un squat à 2,30, tu vois, t'es là.
Ouvre-toi, elle a pas 2,30, mec.
Ah si ?
Non, elle a 211, je crois, ou 212.
Ah ouais ?
Ouais, elle a pas plus de 220.
Putain, je suis pas à jour, mec.
À l'entraînement, elle a peut-être 215, 220.
Je suis pas à jour. Ah ouais, je crois qu'elle avait genre 220, 230. Ce qui reste énorme. Hein,
parce bah oui, de toute façon, champion du monde, on peut être en mode, ouais, c'est ce qui reste vraiment pas mal, hein. Ah oui, pas mal, effectivement.
Évidemment.
Champion du monde, enfin, championne du monde.
Mais ouais. Mais ouais, voilà, petite formation de spotter express. Mais tu vois, quand je te disais qu'on va bifurquer sur des sujets, là je sais même plus d'où on partait.
C'était la question d'Atlante, enfin de Coco.
Voilà, donc voilà donc, ce que nous apporte.
Je ne sais même pas comment on a bifurqué après, mais bon.
Spoté.
C'est quand même pas mal.
Mais oui, ouais. Si, on partait on parlait de la FNSL, qu'on était allé à Paris et tout.
Ouais.
Et que oui, on avait fait des rencontres là-bas, on avait rencontré pas mal de personnes, des réseaux notamment. Ce qui fait bizarre au début. Hein.
Ouais,
parce que
ouais,
tu sais, quand tu vas. Mais c'est tout bête, parce que tu sais, les mecs, genre, c'est pas forcément des stars ou quoi, c'est juste sur les réseaux, ils sont assez connus dans le milieu.
Ouais, dans la niche, quoi. Dans la niche, juste.
Exactement.
Ça, tu vois.
Et quand tu les vois en vrai, ça fait bizarre au début. Mais en fait, tu te rends compte que c'est des gars qui sont hyper accessibles, qui sont très gentils, en plus, en général.
Dans la plupart, ouais. Dans la plupart.
Et qui sont pas du tout fermés, au contraire, qui sont très ouverts, etc. Et ça nous a permis de faire des belles rencontres, et franchement. Grave bonne expérience quoi, donc ouais, ça apporte beaucoup de contacts aussi dans le milieu, et ça c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment cool. Mais voilà pour la première question,
première longue question.
Je vais checker juste à combien de temps on est, parce que faut que je relance au bout de 30 minutes, c'est la malédiction. Ça va, on a encore plus de 10 minutes, on est bien. Deuxième question que j'avais, c'était concernant le renfo dans notre programmation. Alors ça, c'était pas une question de la boîte à questions comme je vous avais dit, c'était plus quelqu'un qui m'avait répondu à une story, qui avait réagi, qui me demandait, bah voilà, et ce serait intéressant que tu montres un petit peu ton renfo, ce que tu mets dans tes séances, etc. Et je pense que ça peut être bien. Alors évidemment, ça varie d'une programmation à une autre, mais généralement on a tous nos fois un peu faibles, et donc du coup on spam un peu toujours les mêmes renfos pour les mêmes groupes musculaires, donc ça peut être intéressant qu'on détaille nos progs rapidement sur l'aspect renfo, et qu'on explique à quoi ils servent, dans quel but, etc. Et ça va rejoindre un peu l'aspect réhab que je voulais aborder aussi, donc on va faire une pierre deux coups. Donc toi, par exemple, pour tes séances tirage, on peut commencer par ça, parce que du coup, toi, tu fais un split MU, traction et squat dips.
Ce qui se passe dans la plupart des streetlifters en règle générale, hein, pour ceux qui ont des progs un peu plus atypiques.
Farfelu.
Dans la plupart des cas, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. MU traction et squat dips avec 4 entraînements semaine. Après, certes, on a qui split souvent le squat. Moi, je sais que je faisais ça, squat dips, je splitais du coup. Mais bon, en vrai, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était du coup la renfo. Du coup, ouais, sur mon tirage, je vais avoir. je vais pas avoir beaucoup de renforcement. J'en ai jamais mis beaucoup. J'ai du face pull, du curl biceps et du chin-up. Alors j'expliquais du coup chacun, au pire je peux expliquer un peu tu vois les rôles de chaque exercice. Je vais essayer de faire ça rapidement quand même, parce que vas-y, si on détaille chaque exo de renfort, on n'a pas fini.
Alors comment on le fait?
C'est ça,
il faut s'expliquer.
Ah ouais, je fais l'angle du coude un peu plus dans
un angle obtus à 65,7 degrés.
C'est un truc. Mais du coup, chin-up, je le fais dans un objectif en fait de rotation au niveau de mon coude. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes en pronation, vous avez la rotation interne de votre coude qui vient intervenir. Et en chin-up, vous avez la rotation externe. Enfin, ou l'inverse en fait. Enfin, faut pas que je me gourre, mais en gros, c'est soit rotation interne, soit rotation externe. Et dans les deux cas, c'est intéressant d'avoir une certaine complémentarité au niveau de la rotation externe et au niveau de votre rotation interne au niveau du coude. Parce que ça peut, du coup, potentiellement jouer sur les douleurs de coude. Et donc voilà. Et aussi avoir un engagement plus important des biceps. Ce qui fait qu'aussi bah, ça peut jouer sur mes douleurs de coude, chose que j'avais et que j'arrive bien à gérer maintenant. Voilà, donc premier exo. Après j'ai le face pull, donc exo basique en vrai de renfo santé ou même renfo basique. Bah, pour l'arrière d'épaule, déjà, parce qu'on a quasiment aucun exercice typique en musculation, même polyarticulaire, qui travaille l'arrière d'épaule, mis à part peut-être du rowing à la barre. Rowing bûcheron un peu, mais encore ça dépend comment on le fait et comment on l'exécute. Voilà, puis pour travailler aussi la rotation externe d'épaule et renforcer le coiffe des rotateurs. Voilà. Donc plus un aspect santé qu'autre chose. Et ensuite j'avais du curl biceps. Donc là pareil, uniquement pareil, un peu le même objectif que les chin-up. Je fais ça à la poulie en unilatéral. Ouais, toute ma renfo isolation c'est simple, je la fais en unilatéral parce que pour moi ça évite les déséquilibres et ça permet vraiment bah, du coup
de plus se concentrer, ouais,
c'est ça, puis que ce soit plus transférable sur une traction tu vois, pour éviter de créer des déséquilibres, parce que des fois on va tirer plus d'un côté que de l'autre, et si on axe notre renfo en unilatéral et qu'on met les mêmes charges sur soit le membre gauche ou le membre droit, bah, au final on reste plutôt équilibré, on tire plutôt voilà, plutôt normalement quoi, on va dire.
Okay, ouais.
Donc voilà pour ma renfo de tirage.
Okay.
J'enchaîne sur le push.
Bah vas-y, hein. On sait plus.
Vas-y, je tire plus vite parce que putain.
T'as vu, ça passe vite. Hein.
Sinon, ça va être long.
Franchement.
Surtout que le tirage, c'est là où j'ai le moins d'enfo. Si je détaille chaque exo comme ça, on n'a pas fini.
Ouais.
Donc pour le push, dips, j'ai triceps extension, bench en close grip. Après, pour moi, le close grip, c'est juste prise normale.
Mais toi, t'es une anomalie.
Il n'y a pas close grip, pas close grip en fait, c'est juste une prise normale. Est-ce que j'ai un autre exo ou pas? Bah, j'ai une variation.
Split squat?
Bah, pour le dips, uniquement pour le moment.
Ah oui, tu parles pour le dips, ok.
Ouais.
Triceps?
Ouais, triceps extension et bench, mais je crois que j'ai rien d'autre. Si j'ai la coiffe des rotateurs, enfin le L-fly, enfin, le truc basique que tout le monde fait pour s'échauffer, sauf que moi je le fais en renfo pur et dur. Que je mets en fin de séance, donc vraiment avec des séries et des répétitions, donc là au niveau de, enfin, juste pour la santé de l'épaule quoi. Donc vite fait du coup triceps extension, bah pff, plus ni moins que l'hypertrophie, et pareil pour douleur de coude, et chose que j'ai, alors ça c'est un autre détail, mais ça va peut-être intéresser pour bah, les forceux ou même peu importe quelqu'un qui a des douleurs de coude en règle générale, sur ces exercices polyarticulaires. Quelque chose qui m'a aidé à les estomper ou à les faire partir, c'est vraiment en fait de mettre plus d'intensité sur mon isolation, que je fais du coup avec des... alors je sais pas, on appelle ça des super C, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros je fais 15 répétitions sur mon isolation de chaque bras, et après je descends la charge et j'en fais 10 de chaque bras. Donc en gros j'ai comme deux séries splittant en une, tu vois.
Ah ouais, ok, ouais.
Et je fais ça sur mon isolation. Donc voilà. Et le bench, bah, ni plus ni moins pareil que de la renfo. Là, pour le coup, il n'y a même pas de santé ou quoi que ce soit avec. Juste la renfo pure et dure pour transférer sur le dips. Voilà. Et après, squat, j'ai du split squat et du leg curl. Et bah, leg curl pour travailler les ischios, qui est trop, enfin, voilà, qui est trop peu recruté sur le squat, sauf sur l'excentrique, en règle générale. Et du coup, plus quand on est en low bar, mais bon, on est loin quand même... voilà, d'un recrutement optimal. Et du coup, le split squat, bah pareil, l'exo, on va dire, voilà, du démon par excellence, mais qui est plutôt ok, si on parle, enfin même qui est en vrai qui est hyper efficace pour tout ce qui est quadriceps, fessiers, pareil, en fonction de comment on l'exécute, parce que celui-là il varie énormément en fonction si on vient vraiment descendre verticalement. Ok, je t'entends de chercher vertical, horizontal. verticalement, on va plus recruter les quadriceps, ce qui est plutôt logique, mais par contre, si on se penche en avant, le fessier il prend cher. Genre, le lendemain, vas-y, t'asseoir, c'est compliqué quoi. Donc voilà,
okay.
Un petit peu. Puis bah, après, on vient travailler sur tout ce qui est stabilisateur au niveau de la hanche, du genou, et tout ça et tout ça.
Ouais, bah. Le split squat, c'est horrible.
Tout en apprenant sa preuve, donc ça t'est sauvé.
Mais... Ouais. Mais je. I know. If you know, you know.
You know.
Surtout qu'en plus, nous, dans notre fitness park, on a vraiment une machine à split squat. C'est-à-dire que t'as pas à le faire aux haltères. Et ouais. C'est pire. C'est pire.
Mmh.
C'est
ouais.
Pire, ça tape, c'est horrible.
Le grip est moins limitant. Là, tu vois, je suis passé aux haltères, mais je pense que je vais repasser sur la machine parce que j'ai un bien moins. Bien moins bon focus. Ouais.
Ouais, en fait, si vous voulez avoir un équivalent, il faudrait des sangles, mais même au niveau du setup, c'est plus pratique la machine en fait. Et puis ici, on n'est pas des oulettes, pas des sangles.
C'est un peu ça, ouais.
Voilà.
J'aime pas trop l'utilisation des sangles. Enfin, ouais. C'est personnel.
Tu renforces le grip. Non, mais en vrai, pour moi, vas-y, tu sais quoi, je fais une pause dans la question pour rajouter une question. Qu'est-ce que tu penses des sangles, mec? Genre des sangles de tirage. Dans la force. Parce que dans le body, on sait que c'est très utile parce que ça peut permettre de retirer le facteur limitant du grip pour développer bah, par exemple son dos sur des mouvements de tirage, entre autres. Hein. C'est à ça que ça sert.
Pour estomper le facteur limitant.
Et qu'est-ce que t'en penses dans la force du coup? Est-ce qu'il y a une utilité selon toi? Parce qu'on en voit beaucoup aussi qui font du terre, des gars qui font de la compète, mais qui mettent quand même des sangles de temps en temps pour justement économiser leur grip sur certains trucs. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un avis là-dessus?
Bah, dans leur pratique, c'est intéressant parce que, imaginons, je sais pas, t'as 3 dés de semaine et il y en a un où tu dois t'économiser parce que, voilà, imaginons, je sais pas, c'est ton dé de lourd et ton dé de technique, bah, tu vas pas le mettre parce que t'as moins lourd, etc. Tu vois, ça permet d'économiser un peu.
Ouais, il y en a qui s'ouvrent aussi beaucoup facilement et avant les compètes, ils essaient de s'économiser avant les compètes au niveau grip. Ouais.
Donc t'as ça qui peut jouer. Mais globalement, moi, moi, dans ma philosophie d'entraînement à moi, mettre des sangles, c'est juste pas possible. Déjà, avant, juste le fait de m'équiper au squat, ça a été très long.
Oui, donc, ouais, mais ça, c'est une autre histoire, ça.
Bah si, parce qu'en fait, c'est un équipement que tu rajoutes parce que... qui va te rajouter des kilos.
Genre, ouais, en mode, ça c'est pas fort, pareil. Ça, c'est méta. C'est-à-dire que tout le monde a déjà de l'équipement au squat. Là, les sangles, c'est plus... optionnel.
Mais c'est pas une question de tout le monde ou pas tout le monde, c'est ça le truc. C'est une question de philosophie. Genre en mode.
Ouais, mais en compète. Pour bah oui, coup, en vu que c'est autorisé, si tout le monde en a, tu vois.
Si on veut être compétitif, évidemment, tu vois. Mais c'est
alors ça, là, on parle vraiment street lifting, hein, parce que ça, c'est une question qui se pose même pas dans le power.
Ouais.
Tout le monde a. C'est vrai qu'il y a que ce débat dans le street d'ailleurs. Il y a pas ce débat des équipements au power. Genre, personne se pose la question parce que. Déjà, bon, c'est un sport qui est plus vieux. Vu que c'est un sport en pleine émergence, bah, je pense que c'est normal aussi qu'il y ait des débats dans le sport. Mais dès le début, il y avait déjà les équipements dans le power. Donc oui, au final, personne ne s'est jamais posé la question. Ouais. Mais du coup, oui, donc, dans ta philosophie, c'est moins tu as d'équipements, moins tu as d'accessoires, mieux c'est, en gros.
Ouais, parce que... Ouais, mais surtout, en fait, c'est-à-dire que être fort avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est moi.
C'est déjà une bonne chose.
Donc en fait, c'est ça le truc. C'est que moins j'ai d'artifices qui viennent s'ajouter à l'extérieur, bah mieux c'est, tu vois. Mais même dans ma vie de tous les jours, tu vois, je suis pas là en mode là à collectionner 3000 machins, tu vois. Donc ça s'applique aussi dans la vie quotidienne, tu vois. C'est pas uniquement à l'entraînement que c'est comme ça, tu vois.
Ouais.
Donc voilà.
Mais c'est intéressant parce que moi je suis pas d'accord avec ça, forcément. Bon, après, voilà, on fait pas exactement le même sport.
Oui, bon,
y a des similitudes évidemment, mais voilà. Mais c'est à ça que ça sert aussi le podcast, c'est à confronter nos idées finalement à ce niveau-là.
C'est drôle.
Ouais. Et donc du coup pour toi les sangles non.
Bah pas pour moi, pour les autres pourquoi pas, mais pas pour
moi. J'aimerais rajouter un truc, c'est que l'avantage aussi de pas mettre des sangles, c'est que tu vas renforcer ton grip déjà. En tout cas, je parle sur les exos accessoires, genre tous les exos où tu as du rowing avec des haltères, avec des poids libres, etc. Et autre truc qui est bien, c'est que tu as un potentiel d'hypertrophie au niveau des avant-bras qui est plus élevé, parce que bah on va pas se mentir. Pour moi, le meilleur moyen de se construire des avant-bras, c'est de bosser un peu partout ton grip, sans sangle, sans rien, etc. Et faire ton tirage comme un bonhomme, quoi, en gros. Juste, il met de la magnésie et puis, voilà. N'hésitez pas à mettre de la magnésie d'ailleurs sur vos accessoires, ça c'est un truc qui est un peu sous-côté, mais si en vrai tu fais du rowing lourd, la magnésie, voilà, t'en prives pas de la garder qu'aux tractions. Ça, c'est aussi utile, donc ça peut clairement servir à ce niveau-là, mais petit bonus aussi à ce niveau-là. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas du tout des avant-bras de base, mais vraiment, ça, c'est le truc. C'est comme les mollets, tu vois. C'est un truc super chiant à développer, que j'ai pas envie de... D'ailleurs, je me suis jamais mis l'accent dessus. Et je vois bien qu'avec le temps, je réussis un petit peu à les développer purement grâce à mon tirage. Donc, traction,
les mollets,
exo, polybre et tout. Ouais, je vois.
Les mollets sur le tirage, toi ?
Non, pas les mollets. Les avant-bras. Non, les mollets...
Oui.
C'est secret.
Les mollets, ils restent où ils sont.
Ils restent cachés. On met les chaussettes longues. Tu connais la vibe.
Oui, les chaussettes longues.
Mais ouais, et d'ailleurs, on m'a dit aujourd'hui que j'avais pris des avant-bras. Mon égo est rassasié.
C'est vrai, ça ?
Ouais.
C'est qui te l'a dit ?
Je te dirai après le podcast.
C'est quoi ça ?
Ça veut dire quoi, ça ? Je peux le dire là.
Ok. Dis, je pense
pas. Je te dirai après le podcast. Y'a rien de fou, hein, c'est juste. Je te dirai après. Mais oui, bref, ça a également un bon potentiel à ce niveau-là, les sangles, et donc je recommande de ne pas les mettre. Voilà, donc là-dessus, on a la même philosophie. Je referme la parenthèse, je reprends. Explication des accessoires de mon côté. Alors moi, j'en ai beaucoup, parce que je cherche aussi à me développer physiquement à côté, et que, on va dire que j'ai encore un potentiel, on va dire, d'hypertrophie qui est élevée, voilà, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que au-delà du fait que je souhaite me développer physiquement, ça a un réel intérêt que je me développe beaucoup. Et comparé à des personnes qui auraient fait potentiellement 5-6 ans de musculation avant la force, moi c'est pas mon cas, j'ai démarré au poids du corps et ça fait que entre guillemets 3 ans que je m'entraîne. Donc c'est clairement très utile que j'ai beaucoup d'infos, mais c'est aussi un souhait de ma part que j'ai fait part à mon coach avant de commencer le suivi. Alors donc du coup, si j'essaie de résumer par groupe musculaire plutôt, parce que ça va être plus simple, parce que moi c'est pas comme j'aurais dit, j'ai pas genre juste deux splits, mes jours ils sont un petit peu mélangés, etc. Parce que du coup j'ai 3 bench semaines de squat et 3 deadlift avec une variante de romanian deadlift. On peut commencer déjà par les ischio, donc j'ai un leg curl, un romanian deadlift extension lombaire, on peut le compter un peu en vrai, même si c'est pas le main focus, c'est plus pour les lombaires, hein. C'est dans le nom.
Ouais, si lombaires en général,
ça tape un petit peu dans les ischios aussi. Donc beaucoup de volume sur les ischios jambiers, et ça évidemment c'est sans compter les mouvements de comp hein, qui travaillent aussi, parce que j'ai clairement un retard sur les ischios que je suis en train de crever petit à petit, enfin que je suis en train de réduire justement petit à petit. Donc ça fait plaisir, parce que voilà, ça a toujours été compliqué pour moi de développer ça. J'ai plus un point fort au niveau des quadriceps. Et d'ailleurs, vas-y, transition directe, perds pas de temps. J'ai qu'un exo quadriceps en renfo par semaine, c'est leg extension. Voilà, parce que en power, tu vas quand même beaucoup travailler le bas du corps. Donc c'est logique qu'il y ait un petit peu moins de renfo, je pense, sur le bas du corps que sur le haut du corps, à moins que tu aies un point faible à rattraper, comme moi en l'occurrence les ischios. Donc voilà, et en plus le RDL, ça permet, on va dire, de répéter quand même le schéma moteur du deadlift en plus d'avoir un bon potentiel d'hypertrophie, donc c'est assez bénéfique. Et moi je sais que pour le grip ça m'aide beaucoup aussi, vu que souvent c'est des séries longues, à ce niveau là ça aide bien aussi. Après maintenant pour passer sur le haut du corps, donc j'ai un renfo pec par semaine aussi, c'est le chest press en gros,
chest press,
la chest press technogym là qu'il y a dans tous les fitness parks. Et d'ailleurs, c'est une des... Pourquoi cette machine-là en particulier ? Parce que c'est une des seules machines où j'arrive à vraiment avoir un bon ressenti. Alors voilà, on sait que ressenti, congestion, etc., c'est pas forcément corrélé.
Ah ouais.
Corrélé.
Enfin, un mix colère et
corrélé. Corrélé à l'hypertrophie et au développement musculaire, mais on va pas se mentir que moi, c'est kiffant quand t'as un bon ressenti dessus. Et j'ai des bons résultats avec, donc pourquoi... Pourquoi changer finalement ?
Donc, changer une méthode qui marche.
Exactement. Et puis j'ai déjà 3 bench semaines, plus un dips, parce que je garde un jour de street lifting dans ma semaine pour garder les bases, et ça me permet aussi de continuer à progresser. Donc c'est bénef. Donc j'ai un dips, 3 bench dans ma semaine déjà, donc il n'y a qu'un exo de renfo pec, parce que ça.
Un dips, 3 bench.
Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup pris des pecs, mec. Hein, parce que les 3 belles semaines, je les ai sentis. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai
essayé. Et dips en plus.
Et dips en plus. Et chest press en plus. Donc, en fait, je fais quasiment pec everyday. Voilà. Ça, c'est le rêve de tout gars au muscu. Je fais chest everyday.
Ouais, sur 6 jours d'entraînement, ouais. Non, 5.
5. Et 6e jour, c'est la course. Parce que je suis David Goggins. En devenir.
David Goggins.
I am David Goggins, you know. Donc voilà, au niveau des pecs, j'ai deux renforts triceps parce que j'ai plutôt un point fort biceps, point faible triceps, donc deux extensions triceps à la corde. Voilà, c'est franchement pas de prise de tête à ce niveau-là de ouais, faire à la barre, faire à la corde, machin. J'ai deux fois à la corde dans la semaine, évidemment avec des rep range et des formats
même
différents.
Variante. Même variante genre
Ouais, même variante. Okay. Ouais. Parce que bah, c'est aussi l'exo triceps où franchement j'ai le meilleur ressenti bien exécuté et tout. Donc voilà, juste rep range qui change. J'en ai eu une fois, c'est souvent un rep range assez bas, genre du 8-10 rep, et l'autre c'est plus dans du 12-15 rep, tu vois. Et ça progresse avec le temps, tout ça. Mais voilà, pour les triceps, hein, rien de crazy. Et je suis en train de réfléchir, j'ai aussi un curl marteau par semaine, parce que bah voilà, mine de rien, c'est quand même engagé sur le bench. Et puis même pour. Ouais, si.
Le biceps.
Ouais, un petit peu, ouais.
Ouais, bah, ouais.
C'est léger, mais genre c'est toujours important, rien que pour l'équilibre aussi, tu vois. Genre c'est important de le travailler au moins.
D'avoir cette notion agoniste-antagoniste.
Ouais, et aussi vu que je fais des tractions à côté un petit peu avec le street lifting, bah voilà, ça permet, plus même pour le physique, c'est cool. Ouais, et pareil, j'ai aussi un exo d'élévation latérale, mais là c'est purement pour l'esthétique, il n'y a aucun intérêt en vrai, je pense, pour la force. Le faisceau latéral, il est quasiment pas engagé, voire pas du tout, je pense.
Bah, si, justement.
Non, le faisceau latéral, pas le faisceau.
Bah les deux sont engagés.
Le faisceau latéral, très peu en vrai. Genre sur les mouvements, sur le bench. Latéral.
Bah oui. Bah c'est pour ça qu'en fait, souvent, t'as un surdéveloppement du. Comment on appelle celui qui est en avant?
Postérieur.
Non, c'est celui qui est derrière, postérieur. Celui
qui est antérieur, du coup.
Antérieur, peut-être, ouais, du coup. Antérieur et latéral, c'est ceux qui sont plus développés
en général.
C'est
le postérieur qui est en
postérieur, c'est tout le temps ça. Et c'est pour ça qu'il y a
plus. Ouais, mais là je pense du latéral. Je parle pas de l'arrière d'épaule. Ouais. Arrière d'épaule, je suis d'accord avec toi. Ça,
bah,
ça
latéral, il est sur les justement, il est sur sollicité avec celui qui est devant.
Bah justement, c'est ce qui est dur en général. Tu sais, c'est le cliché un peu genre des gos muscus qui veulent avoir genre des grosses épaules. On dit souvent faut spammer les élévations latérales ou les trucs comme ça parce que justement le faisceau latéral, en fait, tu travailles pas. Enfin, voire pas du tout en fait sur tous les mouvements de poussée classiques genre bench, chest press et tout quoi, tu vois. Donc, pour moi il est pas beaucoup engagé hein. Il y a peut-être une utilité mais pour moi il est pas beaucoup engagé, tu vois. Let's go, désolé hein, si vous aviez la cam de couper pendant un petit temps là. J'ai pas checké le time. Mais du coup tu disais ouais il y a un déséquilibre quoi.
Ouais souvent un déséquilibre côté, souvent même sur du body, voilà ils le disent souvent tu vois. Genre ouais. Que l'arrière d'épaule est trop sous-développé. Parce que, bah après, physiquement, bon, ça moche déjà. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais vas-y, t'inquiète.
Ouais.
Mais bref, vas-y, on peut enchaîner sur un autre sujet en vrai, si tu veux.
Ouais. Et attends, je finis juste avec le renfo aussi. Ouais. J'ai du tirage un peu. Donc tirage vertical, unilatéral. Et je suis d'accord avec toi, l'unilatéral, franchement, pour le ressenti et bien se concentrer sur l'exécution, je trouve ça pas mal.
Il n'y a aucun défaut en fait. À l'unilatéral, il n'y a aucun défaut.
Ouais, parce que
l'isolation.
Ouais, c'est clair. Parce que du coup, le dos est très important pour le bench aussi, parce que ça apporte de la stabilité sur le banc et tout. C'est vrai, mec, t'as un gros delta plane, mon gars, t'es bien ancré. Et comme je vous avais dit, bah, je fais aussi des tractions et des muscle-up anneaux pour le street, donc bah, ça reste bénéfique d'avoir du renfo au niveau du dos également. Donc voilà, je réfléchis, mais je crois que j'ai tout dit, ce qui est déjà pas mal. Tu vois, j'ai beaucoup plus de renfo que toi. Mais encore une fois, on l'a dit, c'est parce qu'il y a une optique d'hypertrophie importante derrière. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour rapidement à ce niveau-là. J'en profite pour enchaîner rapidement. Donc, tu as parlé du Hellfly tout à l'heure.
Ouais.
Donc là, qui est plus pour une optique santé, on va pas se dire.
100%,
il n'y a aucun potentiel d'hypertrophie.
Ouais. Il me dit, si un mec il dit je fais du Hellfly pour l'hypertrophie, je vais le regarder chelou. Hein.
Donc du coup... Le dernier épisode de podcast qu'on avait fait ensemble, qui date un peu maintenant, c'est d'être il y a plusieurs mois, voire peut-être il y a un an.
Au moins 6 mois, voire un an même.
Ouais. Donc à l'époque, tu parlais de tes douleurs, Donc, mm-hmm. t'avais des douleurs, on avait dit, blessures à l'épaule. T'avais parlé.
Ouais, il y en a eu pas mal de.
T'avais tes douleurs au coude déjà dans le dernier podcast ou pas?
Non, pas encore. Pas.
Donc, est-ce que tu peux faire une petite update la minute douleur pour expliquer un petit peu du coup comment t'as réussi à. Enfin, t'avais déjà donné les méthodes, mais un petit peu comment ça a évolué, ta douleur à l'épaule, ta douleur au coude. Qu'est-ce que ça donne un petit peu maintenant? Est-ce que tu peux t'entraîner totalement sans douleur et tout?
Yes. Alors, toutes les douleurs que j'ai rencontrées depuis le moment où on a fait le podcast, je les ai énumérées, ça va être plus simple.
Ouais, voilà. T'avais déjà l'épaule, ça t'en avais déjà parlé.
L'épaule, ça j'en ai déjà parlé, j'ai jamais trop eu de problème avec les épaules. Donc j'ai eu les coudes comme a dit Noah, j'ai eu le psoas, j'ai eu une grosse blessure au genou à cause de notre cher ami Nono. Pas à cause de lui, mais c'est...
Ah, que... l'anecdote du trampoline, ouais. Elle est forte.
Ouais. À son anniversaire, on avait été au trampoline park, voilà, tranquillement, quoi. Moi, je me suis invité, j'y étais, quoi.
Évidemment, et on a passé un très bon moment.
Bon, très bon moment, au bout de 10 minutes, mon genou, il a pété, mais...
Pourquoi?
Bon moment pour qui, ça dépend.
Pourquoi?
Alors, pourquoi, ça, je pourrais pas vous dire. En réalité, ça peut... Enfin, voilà, c'est un peu jouer à la loterie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que oui, je pourrais peut-être voilà, énumérer 10 raisons différentes, et il y en aura peut-être deux qui seront bonnes dans le lot, tu vois. Donc, est-ce que ça sert à quoi grand-chose? On va, ouais, ça va toujours être les mêmes, quoi. J'ai mal dormi, peut-être un peu de courbature, je sais pas, c'est miraculeux.
Moi, j'en ai une en tête aussi.
Voilà, j'ai plein de trucs.
Moi, j'en ai une en tête.
C'est quoi?
L'échauffement.
Bon, non, ça, c'est de la branlette. Ça, en vrai, ça peut.
Contexte. C'est un trampoline park. Il y avait plein de gamins et tout, tu vois. Et nous, on était là, genre les 4 gym bros, ouais, tu sais, on était en mode qu'est-ce qu'on fout là,
les petits fous.
Qu'est-ce qu'on fait là avec les gosses et tout, machin. Et il y a un échauffement un peu genre de groupe. Donc, nous, en vrai, on le fait, tu vois. Genre en mode, on est là. Et Joris, il est en mode, oh, vas-y, ça sert à rien et tout, machin.
Mais qu'on nous demande de sauter.
10 minutes après, je pense en vrai, c'est la coïncidence un peu, parce qu'on va pas se mentir, l'échauffement était pas dingue.
Bon, sauter sur un trampoline.
Mais, coïncidence ou pas, je sais pas, mais 10 minutes après, le genou, il a lâché sur. Mais sur un saut normal en plus, c'était même pas une dinguerie.
Bah, j'ai sauté fort, tu vois. J'ai sauté fort, mais vas-y, comme j'ai l'habitude d'avoir déjà fait, tu vois. C'est pas quelque chose qui avait posé problème par le passé. Mais là, ça a vraiment pété d'un coup, quoi. Genre en mode. En fait, c'était, j'avais des petites sensations, tu vois, quand j'ai commencé à sauter au départ. Je fais, vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. De toute façon, voilà, c'est une petite gêne bizarre, mais vas-y, je prête pas attention. Et petit à petit, tu vois, la gêne s'installe et tout. Et puis en un moment, je suis un putain de saut et voilà. Mon genou, enfin, c'est même pas le genou qui a pété parce que vas-y, c'est trop facile de dire genou. Mais c'était une lésion au niveau du ménisque, externe ou interne, je sais pas, et on s'en fout. Mais on s'en fout complètement.
Il est plus de 22h là quand on enregistra, on est allé. Enfin, moi je suis allé m'entraîner avant, je suis éclaté. Voilà. La fatigue se fait peut-être ressentir, désolé.
Bon.
Mais vas-y, c'est rigolo. On va dire un peu de la merde, c'est rigolo.
Donc voilà. Et après, on a suivi une bonne réhab pendant. J'ai pas pu re-squatter, je pense, normalement pendant 3 mois. Même voire peut-être 4.
Ouais, c'était assez bon.
C'était ma plus grosse blessure, je pense, au genou. Au genou avec l'épaule. C'était vraiment blessure. Après, j'ai eu plein de douleurs. Du coup, j'ai eu douleur au psoas récemment aussi. J'ai eu le psoas, j'ai eu les coudes. J'ai eu bah, c'est déjà pas mal, hein. Bien.
Ouais.
Si, j'ai eu une petite tension à un pec aussi, il y a pas longtemps. Mais c'était pas méchant. Genre, j'ai eu un peu d'étirement, un peu d'isométrie, et c'est parti.
Mmh. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein, quand tu récapitules. Voilà. Après, t'es assez sujet aux blessures.
Bah, on peut dire ce qu'on veut sur ma génétique. Voilà, on dit, t'as une bonne génétique mollet, une bonne génétique avant-bras.
Mais ça, je voulais en parler aussi un petit peu. Mais ouais. Du coup, donc toi, physiquement, t'as une génétique incroyable, on peut se mentir. Genre, ouais. Même tout, insertion, tout, physique et tout. Franchement, insane. Mais comme quoi, c'est pas forcément corrélé. Bah déjà, alors, ne prends pas mal. Parce que dit comme ça, les gens ils vont se dire, ah ouais, il est méchant et tout, machin. Non, mais c'est parce qu'on en a déjà rigolé plein de fois, mais c'est pas forcément lié du coup aux performances. Parce que t'as un niveau intermédiaire ouais, alors que physiquement, tu pourrais physiquement ressembler genre à un mec élite, tu vois. Genre,
ouais, bah c'est clair. Bon, on m'a déjà dit, tu vois, putain, mais t'as des bras énormes et tout, tu dois dépasser plus de 100 kilos, tu vois.
Ouais.
J'étais en mode, non.
Et même du coup, bah, tu vois, les blessures, ça manque pas non plus. Donc, comme quoi, la génétique, c'est un peu bizarre parfois.
Ouais.
C'est un peu bizarre. Et à l'inverse, t'as des mecs, genre, physiquement, ils payent pas de mine, mais ils sont insane, quoi. Ouais. Insane. Et là, on parle même pas, genre, des mecs dans les petites KT, genre les Epanaches et tout, qui en vrai, physiquement, sont quand même, genre, assez impressionnants, tu vois. Quand tu les vois, non, on parle vraiment, il y a des mecs, des fois, ils ressemblent à rien, on va pas se mytho, ils ressemblent pas à grand chose. Et vraiment, en termes de force, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Donc, ouais, comme quoi, parfois, ça veut rien dire, quoi, la génétique.
On peut te donner quelque chose, mais en réalité, tu vas te mettre le revers de la médaille avec, quoi. Genre, moi, on m'a mis la génétique, mais vas-y, on t'a pris quand même le truc articulaire, donc t'as des articulations polystyrènes, tu vois.
T'aurais troqué?
Ouais, bah c'est ça, on m'a troqué la génétique contre les articulations polystyrènes, quoi. Donc,
très, si là, genre, t'avais le choix, tu préférais avoir, genre, les articulations, mais mec, en acier, tu titane, vois, en titane, en vibranium.
Vibranium, j'allais sortir.
Mais
regarder la génétique que j'ai, quoi.
Ouais.
Non, je garderais ma génétique.
Quand même. Ouais, physique.
Ouais, je garderais ma génétique.
Il est content.
Parce que, vas-y, genre... Et fort articulairement, ça t'apporte rien. Genre, à part dans mon sport, je ferais d'autres sports, ça me poserait pas de problème. Parce que j'ai jamais eu de problème avant de faire la force. Avant de faire de la force, ouais. Donc bon. Mais par contre, dans la vie en général, voilà, avoir un physique imposant, voilà, c'est. En vrai, on peut même presque dériver sur un autre sujet, du coup, en même temps.
Ouais. C'est... Mais est-ce qu'on se les garderait pas, ça, pour un autre. Parce que je vois, là, on est déjà quasiment à une heure. Je me dis, on peut faire un podcast, genre entraînement only. Et on en refait un autre plus tard où on prend d'autres sujets, un peu du dev perso et tout.
On peut.
On se garde ça de côté, faut que je le note après dans la note, comme ça on n'oubliera pas pour.
Alors qu'est-ce que t'apportes en physique imposant
le sport. Pareil, j'en ai d'autres que j'avais mis de côté, mais du coup on pourra en faire un autre qui n'est pas lié à l'entraînement un autre jour.
On peut faire ça, ouais. Mais du coup, non, je garderai ma génétique.
Ouais,
c'est rien à foutre. Puis au-delà de ça, chaque blessure que j'ai eue, ça m'a appris une chose. Ça m'a appris des choses en fait à chaque fois. Si tu sois, voilà, parce que t'es obligé de te documenter. Parce que t'es pas un enfoiré en mode ouais, vas-y, de toute façon, voilà, ça va bien se passer, ça va se rétablir avec du repos.
Non, ça c'est mytho. On en avait déjà parlé dans le podcast sur la réhab, mais bullshit. C'est vraiment la pire des méthodes, quoi.
Bullshit. Donc, t'es obligé de te former, t'es obligé d'aller voir à droite à gauche, de chercher par toi-même qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et ça, en fait, ça t'apprend pas un truc. Quoi. Donc, au final, un cadeau empoisonné, quoi.
Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit mieux. Mais ouais, et du coup là, maintenant, t'es dans ta meilleure forme en vrai.
Ouais, parce que j'ai des douleurs, du coup, bah, je te le disais hier, tu vois. Ouais. Des douleurs quand je dipsais, mais c'était relativement pas non plus désagréable de ouf. Mais pareil, que tu vois, je pense que je réussirai à estomper sur ma semaine. Parce que là, il y a un truc qui est très fort. Enfin, qui se lance des fleurs. Mais sur mon bloc, en débutant mon bloc, j'ai commencé à avoir des douleurs au psoas. Et j'ai réussi à l'estomper alors que je montais en intensité chaque semaine.
Ouais.
Alors que ça, c'est logiquement, c'est plutôt l'inverse.
Mais c'est que t'arrives à t'adapter maintenant. T'arrives à te connaître aussi. J'arrive
tu vois, directement, dès que j'ai une douleur, à orienter mon échauffement, ma renfo, mes machins et trucs, tu vois. Directement. Genre, je le fais direct et il n'y a pas de genre
en mode. Et tu vois, un réel impact derrière.
Ouais, direct.
Ouais. Comme quoi, le fait de bien se connaître et tout aussi, c'est clairement hyper utile parce que, bah, on le voit dans ce cas-là. Maintenant, bah, tu sais comment un peu ton corps réagit, etc. Et tu sais comment adapter, comment faire pour justement diminuer le truc. Moi, je vous prends mon exemple parce que bah, voilà, on n'est pas tous intouchables non plus. Enfin, moi, c'est plus minime. Franchement, je suis béni au niveau des blessures et tout parce que j'ai rien du tout, mais quasiment rien. Mais ceux qui me suivent sur Insta ont vu que j'avais repris le handstand.
T'as arrêté d'ailleurs
hein. Bah, tu sais pourquoi j'ai arrêté. Parce que, en fait, comme un con, je retombais, mais je retombais assez mal. C'est-à-dire qu'en fait, je retombais un peu sur la main, comme ça. Et en fait, ça faisait beaucoup d'impact au niveau du poignet droit. Résultat, je me suis mangé des douleurs. Genre, grosses douleurs, franchement. Il y a un moment, ça, je douillais sale, tu vois. Genre, juste comme ça, juste le fait de refaire ça là, avec ma main, ça me faisait mal. Genre, très mal. Donc, je me ramassais, en fait, des douleurs au poignet droit à cause de ça. Donc, déjà, bon. Voilà pourquoi j'ai mis le handstand en pause. Mais je garde dans un coin de ma tête, je vais le reprendre. Dès que j'en aurai totalement fini avec mon poignet, je reprendrai intelligemment. Déjà, j'ai appris à chuter autrement. C'est first step, hein, et pas des moindres. Mais alors, c'était une douleur qui, j'avais de la chance, me faisait pas du tout mal au bench. Alors qu'on pourrait croire, hein, parce que moi j'ai, j'ai le poignet qui est assez cassé au bench, mais ça me faisait rien du tout. Par contre, là où franchement ça me faisait le plus mal, c'était alors déjà sur les dips, mais bon, encore je dips qu'une fois par semaine, mais c'était vraiment au squat. Au squat, quand je déraquais avec la pression du lowbar, même avec les bandes de poignet, ça me faisait très très mal. Et en vrai, j'ai réussi à m'en débarrasser. Alors, ça a un peu fait des up and down, mais à chaque fois, j'arrivais à faire descendre la douleur juste en adaptant, ouais, comme tu l'as dit, mon échauffement, en mobilisant un petit peu, en faisant des extensions.
Extensions,
ouais, j'ai juste trop du mal avec les termes comme ça et tout. J'arrive jamais à me souvenir.
Des fois, de l'anatomie, c'est de la branlette,
etc. Mais bon, bref, des extensions poignet, niveau de l'avant-bras. En échauffement et aussi en fin de séance pour réhab un petit peu. Donc tout bête, hein, tu prends un poids de 2,5 ou un halter très léger comme tu m'avais conseillé et tu te mets comme ça sur un support. Donc moi je me mettais en l'occurrence sur une barre de squat et ouais, tu vas vraiment venir faire des extensions comme ça. Et moi ça m'a beaucoup aidé à genre virer les douleurs. Je voyais dès que j'arrêtais, ça revenait un peu. Donc en fait, j'ai continué continuellement. Et là j'ai rien du tout. Donc. On va voir si ça ne revient pas, mais l'objectif, ouais, ce serait que ça revienne pas du tout. Mais maintenant, c'est un truc que j'ai carrément implémenté dans mon échauffement. Et ça, je vous le recommande si, après, par exemple, avoir terminé avec une blessure ou un truc comme ça, vous avez un exo que vous faisiez en réhab, bah, je vous recommande de juste l'implémenter à votre échauffement. Comme ça, ça va vous faire continuer l'exercice, donc potentiellement bah, prévenir cette blessure pour l'avenir. Et pour autant, genre, vous n'allez pas avoir la flemme, tu sais, genre à la fin de ta séance, de faire ta réhab, ton machin et tout. Comme ça, tu l'as déjà fait à l'échauffement et tu continues à le faire. Et moi, c'est ce que je fais, par exemple, bah, c'est tout bête, mais avec les Hellfly. Moi, je l'ai fait un peu différemment. Je l'ai fait spécifique pour le bench, c'est-à-dire qu'en fait, je mets l'élastique sur un point bas et tu sais, je viens faire comme ça. Je ne le fais pas genre comme ça. Je le fais plus dans
ce sens-là.
Mais parce que c'est spécifique pour le bench. En fait, c'est... Tu vois, quand tu benches, ouais, t'as souvent les coudes ouverts. Et donc, du coup, ça se met plus dans cet axe-là.
Il faut faire les deux. Enfin, en fait,
bah, dans l'idéal, faut faire les...
Dans ta rotation externe, c'est juste que tu travailles pas les mêmes... Enfin, t'as pas le même focus.
Ouais.
T'as pas le même focus au niveau de tes muscles, au niveau des quatre... pareil, j'aurais pas les noms.
Mais j'avais vu ça sur un réel d'un mec spécialisé dans la réhab, dans la force athlétique. Il expliquait que justement, quand tu faisais du bench, c'était un peu plus spécifique au mouvement. Et donc, du coup... Je le fais dans ma routine d'échauffement et si vous vous rappelez, on en avait parlé dans le podcast sur la réhab, mais je m'étais salement blessé à l'épaule, genre je pouvais te rappeler, je devais faire de l'isométrie au poids du corps, j'arrivais plus à dips même au poids de corps. Et maintenant, enfin vraiment rien quoi, rien, donc j'ai réussi à revenir assez rapidement grâce à ça et donc c'est ce que je vous recommande, mettre cet exo, ces exos que vous utilisiez pendant votre réhab directement dans votre échauffement et comme ça c'est le meilleur moyen de ne pas les skip aussi. Donc voilà. C'est une petite recommandation personnelle, mais tout ça pour dire que, franchement, si vous connaissez, si vous savez comment, réagir face à potentiellement une petite gêne, une petite douleur que vous avez déjà eue, etc., pour la faire diminuer, c'est simple, entre grandes guillemets, hein. Échauffement, potentiellement en post-workout aussi, pour rajouter une petite couche. De toute façon, vous pouvez pas trop en faire, je pense. Genre, en vrai, si tu fais bien, que t'exécutes bien le truc, franchement, c'est... Pour moi, tu sais, c'est un peu genre le doliprane de la douleur, tu vois. C'est-à-dire que ça va avoir un effet, genre, moi, je sais que, typiquement, encore une fois, pour le poignet, dès le lendemain, je sentais que j'avais beaucoup, beaucoup moins mal, juste parce que j'avais fait, genre, 3 séries la veille, quoi, tu vois, après mon entraînement.
C'est clair. Non, une série d'isométrie... Des fois, c'est des trucs, une série d'isométrie à l'échec sur vos dips, parce que vous avez mal au coude sur vos dips, c'est un truc à la con, tu vois. Mais des fois, ça va aider. Hein. Et c'est clair que ça, si ça marche, on va le voir très rapidement dans beaucoup de cas. Après, il y en a beaucoup, il y a d'autres cas, forcément, plus isolés, qui vont se mettre en place, mais plus ça va mettre plus de temps, une semaine, deux semaines ou quoi. Mais carrément. Sur ça, ouais. Et même vos exos, hein. Au-delà de ça, par exemple, quelqu'un qui a des douleurs, à la hanche, pareil, son choix des exercices au niveau de ses accessoires, vraiment dans la prog, va aussi être déterminant. C'est-à-dire que, typiquement, quelqu'un qui a des douleurs de hanche, il va peut-être choisir plus intelligemment, il va peut-être choisir de la renfo au niveau de son hip thrust, peut-être du RDL, mais le faire différemment, peut-être pas aller jusqu'au lock. Des choses comme ça, des trucs à la con, juste son choix d'assistance va pas être le même quoi.
Ouais, tout à fait.
En fonction de ses faiblesses articulaires et musculaires. Voilà, voilà. Ouais.
Ouais, je pense que ça va gentiment conclure le podcast. Là, on est quasiment à une heure. En vrai, on aura fait presque une heure.
On a fait deux sujets.
Magnifique, mais en trois en vrai avec la réhab.
Ouais, trois avec la réhab, ouais.
Ouais. Et tu vois, trois sujets, une heure. Voilà. Le pouvoir de faire des podcasts à deux. On est passé de un épisode où j'avais fait quatre sujets sur le dernier Grind Talk en 30 minutes, solo. Mm. Hop, tu doubles le temps quand t'es à deux. Mais en vrai, genre, je pense qu'on a vraiment apporté pas mal de tips, abordé pas mal de différentes thématiques et tout. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça t'a plu aussi de.
Bon, toujours.
De discuter de tout ça. De toute façon, ouais, mec, on est bien. On est dans le canap. On est le soir, on a la tisane, comme des petits papis. Et puis voilà, c'est ça qui fait plaisir en tout cas. Mais ouais, j'espère que cet épisode de podcast, cet épisode du Grind Talk vous a plu, les amis. En tout cas, bah, on l'a déjà dit dans l'épisode, mais vous savez comment soutenir le podcast de toute manière. Je remettrai ton Instagram en description.
Ouais, parce que doivent commencer à me connaître.
Ça régale, mec. Futur influenceur, attention.
Ouais.
Il poste son squat, il fait des montages maintenant.
Ouais, j'ai pas la prétention, mais.
Il fait des montages maintenant au squat.
Ah, ouais.
Non, mais en vrai, si déjà toujours. Juste les gens veulent aller voir, bah, du coup, tes entraînements, un petit peu comment tu progresses et tout, parce que c'est bien beau qu'on en parle un petit peu dans le podcast, mais si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail, vous avez l'Instagram de Joris dans la description directement. Et puis, bah, en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aux fidèles qui restent à chaque fois jusqu'à la fin des podcasts. Je sais qu'il y en a qui restent vraiment jusqu'au bout. Donc, merci, vous régaler comme d'habitude. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. C'était Noah et Joris.
Et Joris.
Ciao.